Brice Lesca. Bonne journée à tous. Reste avec nous. RFI vous donne la parole.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Eh oui, c'est tout simple. Appelez-nous, exprimez-vous, où que vous soyez, en France, à l'étranger. Vous nous rejoignez ici à Paris et RFI vous donne la parole. Nous sommes vendredi, vous connaissez le principe, c'est la libre antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix, vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours. Vous nous interpellez, si vous le souhaitez, sur des sujets qui ne font pas la une de la presse, des sujets dont on n'a pas forcément parlé dans l'émission. 33 9 693 693 70 09 693 693 93 70, si vous nous appelez de France, et vous nous rejoignez également sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, comme tous les jours, votre rendez-vous avec la rédaction d'RFI, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter tous les sujets qui vous intéressent, qui vous interpellent. Ce matin, nous avons des questions notamment sur le programme nucléaire iranien, des questions également sur l'éventuelle candidature de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo qui brigue la présidence de son parti, le FPI. Mais avant de passer au standard, je vous rappelle tout de même que mardi prochain, RFI vous propose une journée spéciale en compagnie d'Abderrahmane Sissako. Nous serons à la veille de la sortie en France de son film Timbuktu, film qu'il a présenté en mai dernier au Festival de Cannes. Il était même en compétition officielle. Et le réalisateur mauritanien sera donc pour l'occasion l'invité fil rouge tout au long de la journée sur notre antenne, et il sera le rédacteur en chef d'Appel sur l'actualité. C'est donc lui qui prendra ma place, qui déterminera le contenu de l'émission et qui choisira plusieurs sujets d'actualité pour lancer le débat avec vous et surtout dialoguer avec vous. Donc notez bien ce rendez-vous mardi prochain, Appel sur l'actualité à 8h10 temps universel, mais vous pourrez également le retrouver par exemple aux côtés d'Emmanuel Bastide, 7 milliards de voisins. Ils parleront du drame des femmes au Mali. Yvon Amar le recevra également pour parler des mots du cinéma, Radio Foot International, Annie Gasnier, puisqu'ils parleront football, et surtout Annie Gasnier reviendra à mon avis sur une scène magique, une scène d'anthologie dans ce dernier film d'Abderrahmane Sissako, où on voit des jeunes jouer au football, mais sans ballon, puisque les islamistes ont interdit le ballon. Donc voilà, tout ça, ce sera mardi prochain sur l'antenne d'RFI, et je vous donnerai davantage d'informations dès que Abderrahmane Sissako aura choisi évidemment les sujets pour débattre dans cette émission. D'abord, vos questions, on va parler de la Côte d'Ivoire. Bonjour Alain.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auteurs du RFI.
Vous nous appelez donc d'Abidjan. La bataille pour la présidence du FPI, le Front Populaire Ivoirien, on vous écoute.
Le Front Populaire Ivoirien laisse partir au pouvoir qu'on ait une division avec la candidature d'Afrique Descent et de Laurent Gbagbo. Alors, quel serait l'avenir du Front Populaire Ivoirien après les élections au soir du Congrès? Est-ce la volonté de Laurent Gbagbo de diriger le FPI, ou est-il poussé par des camarades, ou l'on utilise son image pour prendre la tête du Front Populaire Ivoirien?
Laurent Gbagbo est-il poussé par ses camarades pour briguer la présidence du FPI? Bonne question. Bonjour Frédéric Gara.
Bonjour Juan, bonjour Alain.
Vous êtes notre correspondant permanent à Abidjan. Alors c'est vrai que depuis sa cellule de la Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas, l'ex-président Laurent Gbagbo brigue la présidence de son parti. Il y a donc deux candidats, Laurent Gbagbo et Pascal Affine-Guessan. Quelles pourraient être les conséquences effectivement pour l'avenir du pays, puisqu'on a l'impression quand même que le FPI n'a jamais été aussi divisé?
Oui. Oui, il est certain qu'il y a, Juan, un schisme au sein du Front Populaire Ivoirien, et du coup on échafaude plusieurs hypothèses sur l'avenir de ce parti. Soit Pascal Affine-Guessan et son équipe de campagne, qui sont mises en difficulté par cette candidature validée par le comité de contrôle, se maintiennent, auquel cas le président sortant du FPI est loin d'être certain d'obtenir une majorité lors du prochain congrès du 11 décembre face à la figure tutélaire de Laurent Gbagbo. Soit il retire finalement sa candidature par respect pour celui dont il ne cesse de dire qu'il œuvre pour la libération. Mais ce cas de figure qui a été l'espace de quelques jours évoqué semble peu probable. Pourquoi? Parce que selon son entourage, Pascal Affine-Guessan est déterminé à lutter pour s'imposer au sein du parti en jouant la carte de la cohérence. Comprenez par là que, dans son esprit, seul un président de parti élu et présent physiquement ici en Côte d'Ivoire peut diriger et surtout rebâtir un FPI qui est tout de même sérieusement ébranlé par la défaite de 2010 et la crise en interne qui s'en est suivie. Toujours dans l'esprit des pros Afrin Guessant, si c'est Laurent Gbagbo qui remporte la direction du FPI par procuration, eh bien le président intérimaire qu'il représentera, on parle de son directeur de campagne par exemple, Adou Assoua, n'aura pas les coups des franges pour remobiliser les troupes, les militants, et impulser une nouvelle dynamique au sein du principal parti d'opposition ivoirien. Ce qui ressort, Juan, de ces spéculations sur l'avenir du FPI et la crise qu'il connaît en ce moment, c'est qu'en fonction des circonstances des jours à venir, Afin Guessant pourrait aller à Kanosa. Comprenez là par là qu'il s'inclinerait au Congrès devant Laurent Gbagbo, si celui-ci est déclaré vainqueur, et du coup se placerait en retrait, en réserve du parti quelque part, une position attentiste qui pourrait être payante s'il s'avère que le FPI et l'Alliance des Forces démocratiques qui regroupe les principaux partis d'opposition ont besoin d'un candidat pour la présidentielle de 2015, une participation à ces élections qui, à l'heure où nous parlons, est encore vraiment très hypothétique.
Ouais, mais effectivement, congrès du FPI qui se tiendra le 15 décembre, sait-on ou savez-vous, Frédéric Gara, si c'est la volonté véritablement de Laurent Gbagbo d'être candidat à la présidence du FPI, ou finalement est-ce que ce n'est pas son entourage qui le pousse à briguer la tête du FPI ?
Eh bien, c'est ce qui est assez difficile à déterminer, puisque évidemment le fondateur du parti n'est pas là pour s'exprimer lui-même. Ceci étant, Juan, si ce n'était pas le cas, il serait assez simple pour Laurent Gbagbo de faire un démenti par la voix de ses avocats, par exemple, pour dire qu'il n'est pas candidat au FPI, qu'il s'agit là d'une manipulation. Or, dans la lettre authentifiée par un notaire qui a été publiée par la presse nationale il y a peu, il y a peu de place pour le doute. J'accepte d'être candidat à la présidence du FPI, écrit Laurent Gbagbo. Si on fait un peu de sémantique, Juan, il n'écrit pas « je veux » ou bien « je me déclare candidat », mais « j'accepte », ce qui peut laisser entendre qu'on lui a demandé d'être candidat face à Pascal Afin Guessant. On pense que certains au sein du FPI, à commencer par son fils, Michel Gbagbo, ainsi que trois secrétaires fédéraux qui ont déposé son dossier de candidature, ont joué pour beaucoup dans cet appel à candidature pour faire encore une fois barrage à Pascal Afin Guessant. Là où on peut être un peu sceptique, toujours en référence à cette lettre, à ce courrier de Laurent Gbagbo, c'est qu'il déclare que la Côte d'Ivoire a toujours eu besoin d'un FPI fort, rassemblé et uni, ce sont ses termes. Or, on constate que c'est moins que jamais le cas. Les antagonismes au sein du parti sont plus que jamais exacerbés avec cette opposition entre ces deux principaux leaders. Ce qu'on ne sait pas véritablement encore, Juan, c'est ce que veut la base des militants du FPI en matière de gouvernance du parti, quel candidat ils souhaitent pour les diriger. Et bien, cela, on devrait en avoir une idée plus claire à l'issue du congrès de la semaine prochaine, donc à partir du 11 décembre au Palais des Sports de Trècheville.
Comment Laurent Gbagbo peut-il gérer le FPI en étant en prison à des milliers de kilomètres de la Côte d'Ivoire ? Le sujet vous intéresse ? Eh bien, appelez-nous, on pourra en parler tout à l'heure dans la Libre Antenne. Merci Frédéric Gara. Alain, bonne journée également à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il est 8h18. Véronique Guémard nous rejoint. Bonjour Véronique.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Journaliste.
Bonjour à Frédéric.
Au service international d'RFI. Edbert a des questions à vous poser concernant la disparition des 43 étudiants au Mexique. Bonjour Edbert.
Bonjour Juan Gomez et bienvenue à Parakou au Bénin.
Merci de nous accueillir sur place. On vous écoute.
Alors Juan, où en est réellement l'enquête sur la disparition des 43 étudiants mexicains? La seconde question, est-ce que des mesures sont prévues pour lutter contre les crimes organisés et est-ce que ces mesures emportent l'adhésion de toute l'opinion?
Véronique Guémard, ça fait maintenant deux mois et demi que 43 étudiants ont été enlevés par des policiers véreux à Iguala. Les étudiants ont très probablement été massacrés. On en a beaucoup parlé, effectivement, les premiers jours, au terme d'un mois, au terme de deux mois. On en est où aujourd'hui ?
Ben, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de nouveau, malheureusement. Depuis le 4 octobre, à laquelle donc cette enquête a été lancée par le bureau du procureur général. Alors hier, les parents des étudiants disparus, justement, ont été reçus pendant plus de deux heures avec par le procureur général, le secrétaire du gouvernement, le commissaire national de sécurité. Ils ont fait le point sur tous les lieux qu'ils ont dit avoir passé au peigne fin. En tout cas, ils disent que pour l'instant 270 lieux, donc des grottes, des lacs, des petits ruisseaux, des forêts, etc. 70 personnes ont déjà été détenues. Alors ils ont demandé, les parents donc ont demandé que les recherches soient élargies géographiquement, hein, qu'elles ne se cantonnent pas uniquement aux collines et aux alentours de Iguala et Cocula, hein, qui n'est pas très très loin, très éloigné. Ils auraient appelé aussi à une participation citoyenne pour lancer aussi des recherches de leurs proches, puisqu'ils n'ont pas complètement confiance dans les autorités. C'est ce qu'ils ont démontré d'ailleurs au cours de toutes les manifestations qui se sont produites.
Des manifestations qui sont quotidiennes, quasi quotidiennes au Mexique.
Quasiment quotidiennes, effectivement. Mmh. Et alors il y a quelque chose quand même de nouveau, c'est que pour la première fois, le président Enrique Peña Nieto, qui a fait beaucoup de promesses, s'est rendu hier pour la première fois dans l'état de Guerrero. Il est allé surtout à Acapulco, qui est quand même la cité balnéaire. Il a effectivement fait beaucoup de promesses et lancé un plan pour redynamiser la région.
Mmh. Mais pour l'instant, aucun corps n'a été retrouvé.
Non, pour l'instant, absolument aucun. C'est-à-dire qu'il y a eu des recherches, il y a des restes qui ont été retrouvés, beaucoup de fosses communes. La police donc a lancé d'ailleurs une prise d'échantillons d'une population élargie, hein, parce qu'ils ont retrouvé beaucoup de corps dans des fosses communes. La question, c'est que ce ne sont pas ceux des étudiants, puisque les ADN des parents, des proches ont déjà été récupérés. Mais alors, de qui sont-ils? Donc, il y a aussi toute une question.
Qui sont tous ces corps retrouvés dans les fosses communes?
Et donc, les manifestations qui se sont produites, d'ailleurs, demandent l'apparition en vie, c'est leur slogan, des 43 étudiants, ou preuve du contraire, c'est-à-dire des preuves matérielles de leur assassinat. Mais pas seulement, c'est 26 000 disparus au Mexique qui manquent à l'appel.
Véronique, on se souvient, on a beaucoup parlé évidemment sur notre antenne, de l'arrestation du maire d'Iguala et de sa femme, considérés comme les principaux organisateurs de cet enlèvement. Ils ont parlé ou pas?
Pour l'instant, en tout cas, ils sont détenus. On ne sait pas trop ce qui s'est dit. Donc, on n'a pas énormément d'informations. Mais il y a plusieurs personnes qui ont été effectivement arrêtées. Il y a effectivement le maire, sa femme. Il y a également donc 70 personnes en tout. Et puis 9 qui ont été identifiées, qui sont pour lesquelles il y a des mandats d'arrêt, dont un qui est connu comme El Chucky. Mais pour l'instant, on a absolument aucune information. Et sur la deuxième question...
Oui, que propose aujourd'hui concrètement les autorités, le président de la République, pour lutter contre le crime organisé?
Alors très rapidement, effectivement, il a fait des promesses le 27 novembre. Il a proposé 10 mesures, entre autres remplacer les policiers municipaux qui sont liés au crime organisé. Donc les 800 polices municipales affaiblies, a-t-il dit, pour les remplacer par 32 corps de police de l'État sûr et fiable. Bon, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Une loi contre la pénétration du crime organisé dans les équipes municipales, le changement du numéro d'urgence, parfois des détails, le déploiement de troupes et d'équipes dans ce qu'on appelle la Tierra Caliente, la terre chaude, hein, autour d'Acapulco, justement. Bon, toute une série de mesures qui sont accueillies parfois bien, et puis beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques en disant ce n'est pas suffisant.
Président, qui est très critiqué. D'ailleurs, depuis la disparition de ses étudiants, le pays traverse une véritable crise politique, la plus grave crise depuis son élection il y a 2 ans.
Les personnes demandent vraiment des réformes de fond. Vraiment de fond.
Merci Véronique Guémard du service international. Edbert, bonne journée à Paracou. Vous nous écoutez sur les 106.1. On va repasser au standard au 33 9 693 693 70. Idrissa, bonjour.
Bonjour Monsieur Gomez, bonjour à Camille Deloge depuis au standard et bonjour à tous les auditeurs d'hier ici.
Camille Deloge qui réceptionne effectivement vos questions et qui fait le lien entre vous, les auditeurs et la rédaction des RFI. On remercie évidemment au passage tous les techniciens qui assurent la réalisation de cette émission. Vous avez des questions concernant les négociations sur le nucléaire iranien?
Oui, exactement. Je voulais savoir pourquoi l'Iran n'a pas le même droit à enrichir l'uranium sur son territoire, au même titre que les autres pays membres les signataires de traités de non-prolifération. Ça, c'est une première question.
Alors, Sami Boukhalifa est à mes côtés. Bonjour, Sami.
Bonjour, Juan. Bonjour à tous.
Vous étiez l'envoyé spécial des RFI à Vienne. Vous avez suivi les derniers pourparlers qui n'ont pas abouti à grand-chose, si ce n'est à prolonger les discussions. On se donne encore 6-7 mois pour trouver un accord global. Bonne question, hein, d'Idrissa. Pourquoi l'Iran, qui est signataire du TNP, traité de non-prolifération, n'a pas le droit de produire de l'uranium sur son territoire?
Alors l'Iran, juste pour rectifier, l'Iran a bien le droit de produire, donc d'enrichir de l'uranium sur son territoire. Ce qui pose problème, c'est le taux d'enrichissement. Donc voilà, c'est vraiment cette question qui est cruciale. Et selon les grandes puissances, donc les 5+1, qui sont la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie, la Chine, les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne. Donc, selon les 5+1, un uranium enrichi à 5% suffit amplement à mener un programme nucléaire civil. Donc, ce qui pose aujourd'hui problème, c'est que l'Iran disposait jusque-là de quantités très très importantes, enrichies à 20%. Après l'accord de Genève en novembre 2013, cet uranium, donc ce qui a été décidé, c'est que cet uranium soit appauvri, converti, donc ramené à 5%. Et aujourd'hui, et depuis l'accord de Genève, et depuis que les négociations sont en cours, donc cet uranium a été ramené à 5%, et l'Iran continue d'enrichir à ce taux. Donc voilà, l'Iran a le droit d'enrichir, mais pas à un taux de 20%, à un taux de 5% seulement, qui peut permettre à la République islamique d'avoir de mener un programme nucléaire civil, tout simplement.
Idrissa, vous aviez une autre question?
Oui, j'ai une deuxième question qui concerne certains sites militaro-nucléaires iraniens. Comme par le passé, l'Iran a refusé l'accès à certains sites nucléaires aux inspecteurs de l'AIEA. Alors, en cas de futur accord entre l'Iran et les grandes puissances, quelle serait la garantie aux yeux de la communauté internationale que ces activités nucléaires n'étaient pas en train de poursuivre de manière clandestine dans ces sites nucléaires?
Comment s'assurer que l'Iran ne poursuit pas son programme nucléaire à l'insu des grandes puissances, puisque effectivement, pour l'instant, l'Iran interdit aux inspecteurs de l'AIEA de venir visiter certains des sites?
Ça, c'est tout l'enjeu justement des négociations donc qui sont en cours. Vous savez, ces négociations, si elles traînent, et si vous venez de le dire, ont été prolongées cette fois-ci de 7 mois, donc 4 mois plus 3 mois, 4 mois pour trouver un premier accord politique, et ensuite pour affiner les détails techniques, ce qu'on appelle les annexes, tout ce qui est mis de côté, ce sont les annexes techniques. Et justement, si les négociations ont bloqué, c'est à cause de... Enfin, elles bloquent sur deux points. L'enrichissement, d'abord, on l'a dit, ils sont en train d'affiner donc les taux d'enrichissement de l'Iran. Et ensuite, le deuxième point, c'est le régime d'inspection auxquelles doivent être soumises les installations iraniennes. Après, vous savez, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'Iran a certes interdit, par exemple, l'accès à Parchin, qui est un site très sensible, donc il a interdit son accès aux inspecteurs de l'AIEA, mais de l'autre côté, il a permis à ses inspecteurs de visiter d'autres installations, et notamment les ateliers d'assemblage des centrifugeuses. Aujourd'hui, ce qu'on peut imaginer, c'est avant de laisser ces inspecteurs aller visiter les sites nucléaires très sensibles, l'Iran, c'est pour lui, c'est juste un jeu et un rapport de force. Donc pour permettre cela, il demandera lui aussi de son côté une levée plus rapide des sanctions, par exemple.
René est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Paris, on vous écoute.
Voilà, alors justement dans le cadre des discussions sur le nucléaire militaire iranien, je voudrais savoir si la question de la possession par Israël de l'arme nucléaire est posée, et si pour faire avancer et débloquer la situation, il ne serait pas possible d'envisager une dénucléarisation générale de la région en contraignant Israël aussi à participer aux négociations.
Vaste question, on n'aura pas le temps d'y répondre en 45 secondes. Peut-être, Sami, vous pourrez rester avec nous après le journal.
Pourquoi pas.
Pour essayer d'apporter un complément. Ce qu'on peut déjà préciser à René, c'est qu'officiellement, Israël ne possède pas la bombe atomique, même si c'est un secret de polichinelle. Non.
Oui, c'est totalement ça. Vous savez, donc juste pour répondre brièvement. Donc d'un côté, on appelle bien ça les discussions sur le nucléaire iranien. Donc pour répondre à René, la question israélienne n'a
pas été à l'ordre du jour.
Donc ne fait pas partie des négociations.
Et on vous apportera un complément supplémentaire. Évidemment, René, ne raccrochez surtout pas. On marque une pause. On va retrouver la rédaction pour le point complet sur l'actualité. Le dernier journal Afrique de la matinée. Et tout de suite après, ce sera la libre antenne, évidemment, comme tous les vendredis. 33 9 693 693 70. D'ailleurs, si vous souhaitez commenter ces négociations sur le nucléaire iranien, vous êtes les bienvenus.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.